4 janvier 2021. Salut tout le monde, bravo. Alors, plusieurs petits propos avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est que j'ai eu une espèce de flash comme quoi je comprends les électeurs de Donald Trump. Alors, je n'en suis pas un, mais on dirait que je les ai compris de façon plus claire que jamais. Alors, à la rigueur, ce que je vais vous dire, ça va vous paraître extrêmement banal, mais j'en parle pareil. Pourquoi? Parce que j'ai vu cette semaine une vidéo sur France Culture d'une sociologue qui s'appelle Eva Illouz, donc une franco-marocaine, qui a écrit un livre qui s'appelle « La fin de l'amour ». Et moi, manifestement, j'ai toujours été très intéressé par ce phénomène-là, c'est-à-dire la gestion puis la compréhension du sentimental. Parce que ça a toujours été la propriété des femmes, la gestion du sentimental. C'est pas les gars, tu sais, qui sont là-dessus. C'est probablement pas par hasard que c'est une femme qui a écrit ce livre-là. Puis je trouve que quand tu te mets à réfléchir un peu les événements en général, tu te rends compte que les mœurs, c'est un domaine où, à quelque part, c'est pas décrypté, tu sais. C'est comme si c'est genre, ah, ben c'est de même, puis la chimie, ça s'explique pas. Puis... Alors, c'est pas que ça se rationalise pour autant directement, mais ça se décortique. Et elle le fait, c'est extraordinaire. En tout cas, j'ai écouté cette entrevue-là, ça dure presque une heure. Puis j'étais halluciné de la précision de tous les thèmes qui étaient abordés. T'sais. C'était vraiment comme genre très... C'est que ça a dû m'ouvrir le cerveau parce que je suis arrivé avec une réflexion de même concernant les électeurs de Trump. Je vous garde ça pour tantôt. Pour le moment, quelques petites nouvelles. De un, en lien, en bas, je vais mettre ma chaîne YouTube parce que c'est extrêmement intéressant ce qui se passe. Je vous en parle depuis un bout de temps d'avoir un podcast de cuisine où je cherchais le concept, mais je voulais jouer là-dedans. Puis j'aime tellement être chez nous dans mon nouveau condo que je veux filmer partout. Tu sais, je veux justement de quoi dans la cuisine. Là, j'ai mes 5 à 7 de Facebook live du jeudi que j'ai commencé puis que ça a comme super bien parti. Puis là, j'avais trouvé, c'est-à-dire un de mes membres Patreon avait trouvé, au lieu de Chef Boilard dit, c'était Chef Boilard cuit. J'ai fait sortir le logo. Je vous ai tout parlé de ça. J'ai comme travaillé à l'envers, tu sais, mais c'est correct. Puis là, j'ai fait, pourquoi je me casse la tête? Ça a commencé avec... Il y a 3-4 jours, je suis arrivé du IGA. J'ai fait, je vais filmer quand je déballe mon IGA. Hier, j'ai filmé quand je déballe mon Costco. Puis là, j'ai commencé à faire des marinades. Puis j'avance en temps réel et je vais éminemment rater plein d'affaires. Puis ça peut être très drôle, tu sais. J'ai ma chum Sainte qui m'a dit, tu pourras avoir des suggestions, genre fais un coq au vin, puis tu sais pas c'est quoi. Tu vas inventer c'est quoi pour toi, un coq au vin. Puis, tu sais, en un mot, c'est que tu peux apprendre de deux façons dans la vie. Tu peux apprendre par quelqu'un qui te montre quoi faire, puis tu peux apprendre en observant quoi ne pas faire. Moi, je vais probablement être dans l'autre club. Mais tout ça est drôle au bout, c'est super simple, c'est fait avec ma GoPro. Bref, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Le lien va être dans la description ici en dessous du podcast. Puis je reçois des super bons commentaires, puis ça commence. Là. C'est pas des gros chiffres, mais je commence à être capable de déceler ce qui a beaucoup de potentiel puis ce qui va stagner. Puis ça, je pense que ça va lever. Puis c'est le fun. Ça fait que je vais le bonifier, je vais peut-être commencer à faire plus de montage, ce qui me gaze, puis habituellement que je fais pas, là, tu sais. Ça fait que c'est bien trippant. Autre chose, j'ai recommencé tranquillement à lire un petit peu d'actualité. Ça faisait un peu plus d'une semaine que j'avais déconnecté au complet. Ça a mis beaucoup d'oxygène dans mon cerveau. C'était parfait. Je vous dis pas que j'étais envahi, tout ça, mais, tu sais, j'en avais parlé à la fin de l'année. J'étais comme tout le monde, un peu plus fatigué de mon année, pas énorme. Puis c'est revenu vite. D'ailleurs, là, en quelques jours, j'étais sur le piton, je prends des très bonnes nuits, etc. Ça fait que là, j'ai recommencé, surtout ce matin, etc. C'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui il est politique, puis ça retombe un peu plus angle mort régulier. Mais j'ai compris les derniers jours que j'ai vraiment pas moins de monde qui m'envoie de moins bons feedbacks, puis j'ai pas moins de stats quand c'est ultra personnel. Ça fait que c'est probablement que je vais rajouter un petit peu de ça maintenant. Miam, 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 mon bon café, Tim Horton instantané, de gars qui sait pas faire du café ni boire la différence. Ma semaine va ressembler à quoi? Ben, je recommence à travailler, je fais un pitch pour une compagnie qui répare des téléphones pour travailler sur leur site web, toute leur communication, reniper le message, etc. Ça pourrait être super intéressant, j'adorerais faire ça. Ben, j'adorerais faire ça depuis longtemps, mais ironiquement, j'ai jamais poussé ça. Puis j'ai jamais eu d'autres clients vraiment qui saillants, puis que ou les business que j'avais comme mon classeur, où j'étais en charge de tout ça, par exemple. Ça fait que ça, on va voir. Après ça, ben, je finalise de mettre de l'ordre dans mes podcasts. Voilà. Ça fait que la radio repart avec Sylvain le 11, donc lundi prochain. Ça fait que ça va avoir été 3 semaines off, mais qui servent. Vous irez écouter la nécessité de prendre un break. Là, c'est, il y a à peu près une semaine, j'ai fait un angle mort là-dessus. Ça fait que je ne me répéterai pas là, t'sais, pour ceux qui me suivent. Maintenant, embarquons dans le vif du sujet. J'ai eu un flash. Quand vient le temps d'expliquer les mouvements politiques, c'est plus compliqué que jamais. C'est-à-dire que pendant des années, puis ça, c'est la théorie à Sylvain Bouchard avec qui je fais de la radio, ou en tout cas, je l'ai entendu de Sylvain, pendant des années au Québec, un vote au fédéral, c'était un vote, même au provincial, c'était un vote pour ou contre la souveraineté. T'avais pas vraiment d'autres enjeux principaux. Et quand c'est devenu, bon, un truc qui est moins à la mode, etc., puis en tout cas, du moins, moins à la mode en termes numériques, il y a encore des gens très crinqués de ça, mais le nombre de personnes que ça concerne a éminemment diminué, bien là, il y a d'autres enjeux, puis tu sais, bon, blablabla. Puis après ça, la société change, ça évolue. On voit que depuis déjà plusieurs années, les minorités sont beaucoup plus bruyantes, sont dans des... Il y a des franges militantes, on les entend plus, on les voit plus, ils font l'actualité, ils influencent plus, etc. Tu vois là aussi, il y a une affaire qui s'observe très aisément, c'est la différence entre Montréal et le reste de la province, qui a toujours été clair, mais là, la dernière élection de la CAQ, où personne ou presque a été élu de la CAQ sur l'île, puis ça a été une victoire décisive partout ailleurs. On a parlé souvent du mystère Québec qui votait conservateur quand un peu tout le monde au Québec votait libéral ou fédéral. Bien là, il faut commencer à parler du mystère Montréal, mais c'est plus un mystère. C'était un mystère à Québec, effectivement, parce que c'était comme une bulle, puis tu faisais, ben c'est quoi l'affaire? Il n'y a aucun doute ici pourquoi c'est différent. C'est que la composition de la population n'est pas pareille. C'est très, très métissé ici, c'est très varié, bon. Et quand vient le temps d'analyser les politiques, que ce soit par des gens en France, que ce soit par des gens ici, que ce soit aux États-Unis, etc. C'est que si vous écoutez CNN, si vous lisez le New York Times, le Washington Post, en France, d'autres journaux, peu importe, ou ici même, chacun y va de sa lecture. C'est-à-dire que tu peux voir les affaires horizontales, tu peux voir les affaires verticales. Des gens vont vous dire, oh, il n'y a plus de clivage droite-gauche, maintenant il y a un clivage souverainiste-mondialiste, etc. Puis tout ça est vrai. Les proportions varient, tu sais, ça dépend de l'échantillon, etc. Quand vient le temps d'expliquer la popularité au suffrage de Donald Trump, c'est tout aussi compliqué. Parce que évidemment, t'as une frange de MAGA, là, les calottes rouges, ça, je veux dire, c'est d'ordre religieux, là. Rendu là, Trump lui-même avait dit « Je pourrais assassiner quelqu'un à sa 5e avenue, puis je perdrais pas un vote. » Je sais pas à quel point il était au courant déjà de tout ça, j'en reviens même pas. Parce qu'à l'époque, c'était pas aussi foncé qu'aujourd'hui. Mais il avait raison, tu sais, dans le sens que, bon, c'est que ça, on évalue que c'est 20 à 30 de sa base, qui est quand même énorme, mais qui lui permettrait pas d'être élu, pas du tout, mais c'est des gens, c'est des dévots, là. Tu sais, rendu là, sérieusement, c'est d'ordre religieux, ça me fait un peu halluciner, mais... Puis en même temps, non. Tu sais, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'important, c'est ce que les autres pensent ». Puis c'était en 2016, puis il n'y a pas un mois qui passe où j'ai pas plus raison. C'est-à-dire que c'est devenu très compliqué de comprendre la société puis de la voir évoluer. Puis ça va beaucoup trop vite, puis ça ne ralentira pas. Ça fait que les gens qui ne sont pas capables de couper avec ça s'en remettent à quelqu'un qui arrive avec une solution clé en main. Voilà. J'avais écrit ça, tout le monde s'en crisse, mais la réalité, je suis désolé de le dire. Mais si vous relisez mon livre, c'est un essai qui... Je signe encore en date d'aujourd'hui et probablement je vais signer avec un encre un peu plus foncé. Ça fait que, tu sais, je suis pas surpris, mais ça reste surprenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'à la base, alors ça, c'est ma théorie, à la base, l'électeur de Trump, mais en général, pas juste sa base foncée, qui vote pour Trump pour toutes sortes de raisons, probablement plus ou moins avouable, mais peu importe. Je parle du citoyen normal à droite qui enrichit les États-Unis, ne les appauvrit pas, est habituellement des gens straight, tu sais, qui de bonne famille, qui contribuent aux États-Unis, qui élèvent des enfants droits, qui les envoient à l'école, qui... Comprends-tu? Il y a, chez ces gens-là, la perception que les États-Unis sont en train de se dénaturer, que les États-Unis sont un pays... la population américaine est en train de dénaturer la base même de c'est quoi l'Amérique. Et l'ennemi, il est facile à désigner. Aux États, il y a deux parties. C'est comme au Mexique. À vrai dire, au Mexique, pendant des années, il n'y en avait rien qu'un, techniquement. Alors qu'ici, on est rendu, c'est exceptionnel en Amérique, avec quatre partis. Depuis que Québec solidaire a 10 députés, on peut dire qu'il y a quatre partis au Québec. C'est quand même hallucinant. Parce que habituellement ailleurs, il y en a d'autres. Il y en a toujours deux qui sont assez dominants. Mais aux États-Unis, il n'y en a réellement que deux, républicains et démocrates. Donc, c'est facile de désigner l'ennemi. Hein? Des fois, on dit qu'en politique, la politique, c'est désigner l'ennemi. C'est que pour un Américain qui a une tendance républicaine, ce qui n'est pas le démon en soi, hein, pas du tout, ben l'ennemi, c'est le Parti démocrate. Avec toute son espèce qui peut paraître comme le délire des minorités. Alors là, c'est les trans, les gays, c'est pro-avortement. Puis ça, évidemment, c'est supporté par beaucoup de médias. C'est supporté par le New York Times. C'est supporté par un paquet de médias très influents qui peuvent laisser penser que les États-Unis sont en décadence. C'est-à-dire que ce n'est plus le pays pour lequel il y a eu une constitution qui était faite pour protéger le pays contre une espèce de montée des despotes ou autre. Ça fait que toi, t'es un républicain normal. Tu ne tripes pas sur la personnalité de Donald Trump, mais tu as à choisir entre un gars dont tu trouves que la personnalité est peut-être même insupportable, mais qui se porte quand même en défenseur de c'est quoi l'Amérique de base, c'est quoi être à droite. Puis tu as désigné un ennemi clair, parce qu'il n'y en a même pas deux, c'est le Parti démocrate. Et à ce moment-là, ça explique très clairement et très facilement pourquoi il y a des électeurs de Trump qui, ironiquement, passent par-dessus sa personnalité. Parce que il y a toujours la gouvernance et il y a les idées politiques dans une personnalité politique ou dans un gouvernement. Il y a les deux. Puis souvent, les gens confondent. C'est-à-dire qu'ils vont dire « je déteste Régis Labeaume, il se comporte mal avec les médias, il est baveux ou peu importe. » Peut-être, mais est-ce que ça influence sa base qui trouve qu'il gère très bien la ville de Québec? La réponse, c'est non. Ça irrite les journalistes, mais ça irrite absolument pas les gens qui déjà sont pro-Labeaume. Puis qui vont voter pour lui anyway, tu sais. Ben, c'est la même chose partout dans le monde. C'est-à-dire que la gouvernance, celle de Trump, est totalement chaotique. Je disais encore un matin que son fameux deal du siècle, où il disait qu'il avait mis un accord historique avec Israël, le Moyen-Orient, etc., et ça n'a jamais été mis en œuvre, parce que la Palestine n'a pas été consultée zéro. Ça fait que tout le monde est à case départ. C'est zéro un accord historique. Mais c'est encore une espèce de coup de... On se fait aller, puis telle affaire, tu sais. Puis bref, tu réalises qu'il y a beaucoup de monde qui sont républicains, qui se disent, le porte-parole du parti, celui qui porte le parti, je préférerais de loin que ce soit un autre, mais c'est quand même celui qui combat l'idée de base, qui est que je suis convaincu qu'on est en décadence à cause des démocrates. Puis je peux pas être contre ça, parce que c'est pas une perception qui est folle, dans le sens que, pour quelqu'un qui est profondément démocrate de la frange là, de Ocasio-Cortez, ben effectivement, le vive les minorités, etc., ça devient le leitmotiv de base. Mais si moi, je ne fais pas partie de ce groupe-là, j'ai le droit de penser que ça prend trop de place. Vois-tu, par exemple, la Eva Illouz qui a parlé, là, elle a défini c'est quoi le ressentiment qui est à la base de ce qu'on appelle le populisme. C'est extrêmement... C'est là que tu vois que la précision des mots, ça fait en sorte que tout à coup, tout devient clair. Tu ne vas pas dire que tout devient vrai, mais tout devient clair. Elle a dit le populisme, à la base de tout ça, c'est le ressentiment. Puis le ressentiment, c'est deux choses. C'est un, quelqu'un injustement a des droits puis a des privilèges que je devrais avoir et que cette personne-là a, puis c'est pas correct, c'est injuste. Donc, si, admettons, tu dis, moi, j'étais là avant, c'est quoi cette histoire-là de minorité, etc., blablabla, que tu te l'avoues ou non. Moi, je suis en train juste de le lire, là. Ben, tu as un ressentiment. Le deuxième élément du ressentiment, c'est l'impuissance à pouvoir corriger la situation. Donc, de un, je suis un blanc de père en fils qui habite au Wisconsin, puis là, moi, je vois que c'est les politiques à New York, puis c'est eux autres qui décident de tout, puis là, tout à coup, vivent les immigrants, puis ah ouais, les Mexicains partout, puis t'as la... À tort ou à raison, hein? Ben là, tu commences à dire, Calvas, moi, je vais voter pour Trump. Il me gaze, mais c'est quand même le seul qui défend fondamentalement. Comprenez-vous? On n'est pas juste dans plus ou moins de taxes, l'Obamacare. Ça, c'est de la gestion. On est dans le fondement de ce qu'un Américain pense qu'est son pays. Et de l'autre côté, il y a exactement la même pensée. C'est là que c'est fascinant. Le démocrate qui vit, dont moi, je suis le profil, qui vit dans les villes, qui est allé à l'université, tout ça, là. Le démocrate, lui, il regarde le républicain, et notamment celui qui est dans le républicain de la grosse base MAGA, là. Imagine comment moi, penses-tu vraiment qu'entre mon voisin, mon vrai voisin ici, là, de palier, que je n'ai pas parlé encore, mais j'ai vu, là, qui est musulman, qui a deux enfants, sa femme est voilée, ou un bon MAGA pick-up, manque trois dents dans la gueule. Qui tu penses que je vais avoir comme voisin? D'après toi, là. Bon. Mais sauf que quelqu'un d'autre peut répondre l'inverse. Et théoriquement, ça devrait faire simplement un débat de société. Sauf qu'aux États-Unis, à cause de la théorie du beau-frère, donc que Donald Trump, tel un beau-frère gazant, à un moment donné, met la chicane dans une famille qui, à quelque part, était capable de vivre ensemble pour les rares fois où ils se croisaient puis se faisaient en sorte que la famille se tenait debout. Là, t'as le beau-frère niaiseux qui fait en sorte que l'un jour, le père dit « Hey, ça va faire. » Puis là, ben ta sœur, donc le chum, la blonde de ton beau-frère, ta sœur, elle défend son chum. Là, toi, tu tombes sur la noix de ta sœur. Ben c'est ça, Donald Trump. Le monde qui disait « Ah, les Américains étaient déjà divisés avant Trump. » Oui, mais personne, avec des techniques aussi toxiques, avait créé ça. C'est comme... C'est tout faire pour que la chicane pogne dans la famille. Point barre. Ça fait qu'en un mot, je ne sais pas si ça vous éclaire comme moi, ça m'a éclairé, là, mais personnellement, c'est comme si ça m'a, entre guillemets, apaisé. Ça ne me hante pas à journée longue, croyez-moi, pas pantoute. Mais j'ai réalisé que l'affaire la plus intéressante, je trouve, dans cette observation-là, c'est que les gens qui votent Trump, c'est qu'ils trouvent que fondamentalement leur pays n'est plus ce qu'il était. Et c'est pas une question de politique. En un mot, on ne débat pas de qu'est-ce qu'on devrait faire avec les États-Unis, notre pays. C'est « tu défais mon pays ». Donc, effectivement, on n'est plus des adversaires, mais des ennemis à l'interne. Puis, chaque côté voit la même affaire de l'autre bord. C'est-à-dire qu'un démocrate de grande ville a l'impression que les États-Unis sont dans une décadence épouvantable. Comprenez-vous? C'est la définition de la décadence qui fait la différence, mais dans les deux cas, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, c'est des gens qui jugent que la moitié de leur pays est en décadence. Décadence par rapport à ce qu'elle devrait être originalement, puis décadence à ce vers où elle devrait aller. Voilà. Je ne peux pas vous le mettre plus clair. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis curieux de vous entendre. Et voilà. Donc, je vous rappelle, allez vous abonner à ma chaîne YouTube parce que c'est en train de prendre forme puis c'est extrêmement drôle. C'est extrêmement drôle parce que, sérieusement, c'est le podcast que je trouve le plus fun à faire. Je me l'explique difficilement, c'est drôle. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose dans toute cette espèce de démarche-là que je trouve bien, bien, bien trippante. Je pense que ça joue aussi du fait que, comme je vous dis, j'aime tellement la place où mon condo où je vis maintenant, puis que de faire des projets à l'interne, j'ai l'impression que... Mais bref, je vous gâche plus avec ça. Merci, salut, bye.